C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, le sujet ce matin, avant de passer au rapport des commissaires, parlons des négociations entre l'État et plusieurs groupes d'employés. On a parlé ce matin avec la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, qui va chiffrer bientôt là, ce que ça représente comme investissement. Mais ce qu'on vient de faire avec les éducatrices de garderie, là, c'est quand même assez nouveau, en disant voici des augmentations, en partie, la convention n'est pas réglée, puis on va négocier, puis en plus, on va vous en donner encore une fois que ça va être signé. Nathalie.
Ben oui, nouveau, je dirais inusité, inhabituel. Moi, je me suis interrogée sur la stratégie du gouvernement, bien sincèrement. Une nouvelle façon de négocier, peut-être, mais ce serait intéressant que le gouvernement le dise publiquement. J'ai décodé une impatience de la part de la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, qui, selon elle, est engagée dans une espèce de dialogue de sourds avec les syndicats qui représentent les éducatrices en service de garde. Est-ce que c'est ça qui les a motivés à déposer cette offre qui a été annoncée hier? Peut-être. Mais l'autre objectif, est-ce que c'était effectivement de rallier l'opinion publique au gouvernement, étant entendu qu'il y a énormément de parents qui appuient les journées de grève des éducatrices? Toutes ces questions demeurent sans réponse. Par contre, ce qu'on a compris hier, c'est qu'il y a 11 millions de dollars par mois qui va s'ajouter avec ce qui a été confirmé par Sonia Lebel, ministre, et puis son collègue de la famille, Mathieu Lacombe. 11 millions de dollars par mois pour augmenter la rémunération de près de 20 000 éducatrices en service de garde. Et ce n'est qu'un début, mesdames et messieurs. Moi, je regardais ça, je me disais, waouh, c'est quand même assez incroyable. Tu fais la grève, puis généralement, là, le processus, c'est que tu arrêtes tes journées de grève, tu viens t'asseoir à la table de négociation, puis là, on commence à jaser. Là, on semble faire exactement le contraire. Si on veut faire les choses autrement, ce serait vraiment intéressant qu'on puisse nous partager très ouvertement, de façon très transparente, la nouvelle façon de travailler de la part du gouvernement.
Luc?
Moi, j'ai une hypothèse, Nathalie. J'ai pas reçu le rapport de la haute direction gouvernementale, mais j'ai quand même une hypothèse. mon hypothèse, c'est que... Les syndicats des CPE ont une stratégie à long terme. Une stratégie à long terme qui pourrait déborder le plus longtemps possible pour eux, peut-être si possible même après décembre, ce qui serait vraiment gagnant qu'on double, passer à go, ramasser 200 $ parce que là, tu tombes dans l'année électorale. Et il y a personne qui veut avoir des journées de grève de ces CPE qui dérangent quand même beaucoup, même s'il y a des gens qui les appuient. Ça dérange beaucoup l'organisation du travail de toute la société, d'un bord à l'autre du Québec. En année électorale. Fait que, moi, je pense que le gouvernement veut donc régler le plus rapidement possible. Et le syndicat veut faire le contraire, veut étendre la patente. Et là, ce que le gouvernement fait en passant par-dessus la tête des syndicats en disant aux syndiqués, ben voici, je vous donne 10% à la base jusqu'à 17% avec des primes d'assiduité, pas d'assiduité, mais de permanence. C'est de leur dire, il y a de l'argent pour vous, là. Puis il y en a d'autres qui s'en viennent aussi. Peut-être.
On aimerait tellement ça vous faire échec, mais votre syndicat retarde les affaires.
Voilà.
Non, mais Luc, ouais, mais ton hypothèse est intéressante. N'oublie pas qu'ils ont seulement 5 jours de grève là dans leur manche. Là. Ils ont pas, c'est pas question d'aller 6 mois en grève, là, tu vois.
Ouais, là ils ont obtenu 5 jours des syndicats. Justement, ouais. Quand ils vont retourner pour aller chercher d'autres jours, quand ils vont retourner à leurs membres, puis ils vont dire, ben donnez-vous le mandat. Ça va être difficile parce que hey, c'est des personnes qui gagnent 22 $ de l'heure. En ce moment, ils gagnent 19. Donc, à 19 $ de l'heure, le gouvernement, tiens, tu peux gagner 22. En fin de carrière, tu peux gagner 28. Prime à la permanence. Ah, vois-tu, là, ils vont peut-être dire, ben moi, ça me tente tout le temps que ça d'être en grève. Fait que je pense qu'ils essaient de casser le dos du syndicat. Ils essaient de briser la mobilisation. Puis d'ailleurs, ce matin, le syndicat est sorti très fort en disant, c'est une entourloupette, c'est pas une vraie augmentation. Ils veulent éliminer vos jours de congé. Ils veulent pas vous donner la semaine de 5 jours, de 4 jours, etc., etc. Et là-dessus, ils ont raison. Le nœud, le cœur de la bataille, à mon avis, c'est pas juste la rémunération, c'est la semaine de 4 jours. La semaine de 4 jours, là, 32 heures, tu passes de 32 à 40 heures. Bon, premièrement, c'est un acquis pour beaucoup de monde, ça, la semaine. Puis là, de 4 jours. Et le travail en garderie, c'est pas un travail comme un autre. C'est un travail où tu es là chaque minute, là. À part les poupons qui font la sieste, là. Mais sinon, tu manges avec eux, là. C'est pas, tu vas prendre un long lunch ou tu vas, ce jour-là, tu rentres pas parce que t'as un rendez-vous chez le médecin ou tu fais un réaménagement de ton temps de travail. Tu dis, je vais travailler à la maison. Maintenant, on ne travaille pas à la maison. On travaille on the spot, puis avec les enfants, puis on met de l'énergie. Fait que, ça, c'est vrai que ils veulent avoir la semaine de 4 jours puis qu'ils considèrent ça nécessaire pour l'équilibre de leur énergie, etc., ce qu'ils ont à donner au travail. D'un autre côté, la semaine de 4 jours, quand ça a été introduit, là, je m'en rappelle très bien, c'était sur la base du fait que ça ne dérangera pas l'organisation du travail. Au contraire, on disait, ça va améliorer la performance et la productivité des employés. Ça va être meilleur, mais c'est depuis... on a complètement dérapé de ça. Moi, j'ai été témoin à la ville de problèmes énormes liés à la semaine de 4 jours. Essaye de faire un meeting un vendredi, toi. Quand il y a la moitié du monde n'est pas là.
L'été.
Ça a un impact sur l'organisation du travail. Et surtout quand une garderie est ouverte, 8 à 5, 8 à 6 même, 5 jours par semaine, si quelqu'un travaille 32 heures, faut-tu le remplacer pendant les 18 heures manquantes? Et ça, c'est difficile.
Ouais, ben c'est difficile, mais c'est pas insurmontable. On appelle ça l'organisation du travail. Il faut commencer à réfléchir en dehors de la boîte, compte tenu des pénuries de plus en plus nombreuses qui touchent plusieurs secteurs d'activité, dont celui des services de garde. D'ailleurs, je me demande, les éducatrices qui quittent le réseau, elles vont où, les éducatrices qui quittent le réseau? Moi, je me pose la question, peut-être que certaines sont à l'écoute, elles vont nous dire, celles qui quittent la profession, là, elles deviennent préposées aux bénéficiaires, elles travaillent, en fait, elles vont où? Ça, c'est mon point d'interrogation. Sur la stratégie maintenant, Luc, je veux revenir là-dessus parce que si le gouvernement avait pour objectif de diviser pour mieux régner, on entend ça souvent, n'est-ce pas, un vieil adage en politique, diviser pour mieux régner, il semblerait que ça a fonctionné parce que tu référais à la centrale syndicale qui a dit c'est un cadeau empoisonné, ça c'est la CSQ. Mais la CSN, elle a déclaré parce qu'elle représente 30% des employés non syndiqués. En passant, ce matin, j'écoutais Sonia Lebel à ton micro, Paul, qui disait qu'il y a quand même 60% des près de 20 000 éducatrices qui ne sont pas syndiquées. Pour moi, c'est une première. Je ne savais pas qu'il y avait autant d'éducatrices qui n'étaient pas syndiquées, mais la CSN a dit que c'est un bon premier pas. Fait que sur le plan syndical, là, il y a on ne s'entend pas. Il y en a qui trouvent la proposition du gouvernement très alléchante, d'autres, au contraire, méfiez-vous. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les demandes syndicales sont de plus de 20 %. Le gouvernement a mis sur la table une augmentation allant de 10 jusqu'à 17 %. On n'est peut-être pas si loin d'une entente, mais rendu là, moi, je pense qu'on peut plus parler d'augmentation salariale. On parle de rattrapage, d'ajustement salarial pour éviter pour contenir l'hémorragie, pour stopper l'hémorragie par rapport à toutes ces éducatrices, il semblerait qu'ils quittent le réseau.
Deux éléments. Premièrement, oui, il faut la stopper parce que on veut ouvrir 37 000 nouvelles 1000 places en garderie. Oui. Alors, c'est pas comme ça qu'on va les ouvrir en perdant 800 préposés par année. Deuxièmement, les maternelles 4 ans vont prendre de l'ampleur puis vont aller chercher dans la même table d'employés. Alors ça, c'est une urgence de régler le problème. Mon autre point, c'est elles vont où? Mais elles vont où? C'est des métiers comparables. C'est 19 de l'heure pour une travailleuse en garderie, une intervenante en garderie, 26 de l'heure en CHSLD. Puis moi, j'amènerais une troisième catégorie de personnes qui passent sous le radar, les femmes de ménage. Les femmes de ménage, combien coûte une femme de ménage? Avant, là, ça coûtait 12-15 piastres de l'heure.
C'est pas mal plus cher que ça aujourd'hui. Oui.
Puis c'est en dessous de la table. Calcule combien d'heures à travail, calcule combien d'heures à faire, puis tu vas voir que c'est payé plus qu'une personne en garderie. Puis c'est en dessous de la table.
Ça, c'est pas acceptable, parce que tu vois, les services de garde, c'est un fleuron québécois. Savez-vous, ça nous... collectivement, là, on investit 2,6 milliards de dollars pour assurer le fonctionnement de nos services de garde au Québec à chaque année. C'est nos taxes et nos impôts. Il faut prévenir ça. Il faut, c'est-à-dire, prendre soin de notre réseau. On fait l'envie de bien des juridictions sur la planète. Puis pour ce faire, comme ils l'ont fait avec les enseignants, il faut vraiment ajuster la rémunération en fonction de la réelle contribution des éducatrices. Elles ont dit, elles répètent ad nauseam, on n'est pas des gardiennes. Elles ont raison, elles ne sont pas des gardiennes, puis elles méritent un salaire en conséquence, une rémunération en conséquence et des conditions de travail aussi qui vont avec.
On s'arrête là-dessus, retour, rapport des commissaires, c'est vendredi.
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, rapport des commissaires, Luc, tu commences.
Bon, on commence par quelque chose de vraiment négatif, puis après c'est vraiment négatif, là. 9 mots d'affaires poche, puis après ça, on ira vers du meilleur. Un autre maraîcher québécois qui méprise les ouvriers. Point d'interrogation, là, mais un petit point d'interrogation, parce que les faits ont l'air assez importants, là. Les fermes pitrent dans les Laurentides. Ils ont perdu 23 employés, selon un article du Devoir. Plusieurs des employés sont tout simplement retournés au Guatemala, puis sont retournés dans leur pays avec des témoignages. Moi, je ne veux plus travailler là. travaillent dans certaines journées de 4 heures du matin à 23 heures le soir. Le fermier dit oui, c'est vrai, il y a des grosses heures, mais on a payé le souper à une dizaine de reprises. Hey, payé le souper 10 fois, toi. Mais, c'est bon, hein? Y avait-tu du dessert? C'était quoi le dessert? Un bon Joe Louis? Caliboire, c'est quoi cette façon-là? En plus de ça, les conditions de vie, même chose que ce qui avait été reproché à un autre maraîcher, mais qui s'est repris, semble-t-il, en rénovant les maisons, qu'on nommera pas son nom une deuxième fois. Des conditions de vie où ils n'ont pas accès aux poêles, parce qu'il y a des poêles de cassé, fait qu'ils sont obligés de manger froid. Ils sont plusieurs par chambre, au point, ils n'ont pas de place pour mettre leurs effets personnels. C'est ça notre tradition québécoise de traiter les employés. Tu sais, les syndicats ont généré de la protection pour les employés pendant des années, mais là il y a une porte de sortie parce que eux, c'est des étrangers, ont été traités différemment. Hey, les fermes pitres, arrangez-vous avec ça. Un deuxième élément, ben là, on va être plus positif un peu. C'est pour toi, Nathalie. La Norvège atteindra en 2022 les objectifs d'électrification des véhicules que le ministre Benoît Charrette a déclaré ne pas pouvoir atteindre en 2035.
Je fais la vague.
Yeah, pas capable, il ne marche pas. 2022 en Norvège. Hey,
Norvège, c'est pas le Québec en passant.
Non, mais c'est des mêmes, tu sais, par exemple, sur les batteries. Donc, sur le fait que les batteries, c'est moins performant en termes de nombre de kilomètres franchis, c'est moins performant en hiver. Ça, c'est la même chose là-bas. Sur la longueur des déplacements, c'est la même chose là-bas. Quand on veut, on peut peut-être. Puis, la prochaine fois, là, de nous broyer d'en face en nous disant que c'est pas possible en 2030, on va les tirer en 2035. Qu'est-ce que vous êtes capable de planifier sur un horizon 15 ans? Venez me dire ça, là, qu'est-ce qui va se passer dans 15 ans, là, dans n'importe quel domaine. Mais c'est pas vrai. Vous êtes pas capable de le dire. On peut parler sur des horizons de planification de 5 ans, 10 ans maximum. Et puis là, on a un pays qui est capable de le faire d'ici 2022. J'aimerais bien avoir la réaction de M. Charrette.
Troisième élément. Je crois que t'es fâché.
Mais c'est parce que il a cherché du positif pendant la pause puis il en a pas trouvé. C'est
oui.
Ça qu'il m'a
dit. Non, mais j'en cherche depuis 2 jours du positif. J'en ai pas trouvé. Puis c'est pas le Canadien qui m'aide à m'atteindre.
Non.
Bon. Mais toujours est-il que un petit peu de positif peut-être. Le tribunal administratif de Paris a décidé de poursuivre le gouvernement. Moi, j'adore les Français. Imagine-toi. Tu penses que c'est le bordel ici? Hein? On va faire un tour à Paris. Le tribunal administratif poursuit le gouvernement parce qu'il n'a pas atteint ses cibles en termes de réduction des gaz à effet de serre. Fait qu'ils ont calculé le montant de cible qui n'a pas été atteint et promis. Il avait été promis, mais pas atteint. Ils ont dit, bon, ça vaut à peu près 78 millions d'euros. Là, ils ont décidé de ne pas le facturer tout de suite. Ils ont décidé d'attendre. Mais quand même, ils disent au gouvernement, tu as jusqu'à 2022 pour régler ça. Alors, ils prennent ça au sérieux, très au sérieux, donc une poursuite légale. Et je me demandais si c'était un modèle qui pouvait être transféré ici. J'ai des doutes.
Merci, Nathalie.
Oui, ben je vais commencer dans la catégorie « Il persiste et signe » et j'ai nommé le bon docteur Gaétan Barrette. Vous allez dire, ben, c'est quoi ça? Docteur Gaétan Barrette, ou le député Gaétan Barrette, qui a été critiqué pour sa réforme de la santé, il a publié un message sur son fil Twitter, sur son compte Twitter, et je cite, « En santé, tout le monde ne parle que de la conséquence, le travail supplémentaire obligatoire, jamais de la cause. Pourtant, c'est là qu'il faut agir sur des règles qui permettent à trop de personnel à temps partiel, occasionnel, qui contrôle unilatéralement leur horaire et donc leur réseau. » Et vlant dans les dents, mesdames et messieurs, je pense qu'il a raison. Oui, il a été critiqué, mais en même temps, il a mis le doigt sur le bobo. Il faudra un jour avoir le courage de parler des causes du travail supplémentaire, du temps supplémentaire obligatoire, puis une fois pour toutes, essayer de casser cette dynamique qui cause un énorme préjudice au réseau de la santé. Ce matin, je voyais le 6 de l'Outaouais qui a décidé en fin de semaine, pas de TSO. Fait que s'ils sont capables une fin de semaine, pourquoi ils seraient pas capables à l'année? Fait que j'ai trouvé ça très intéressant, ça a retenu mon attention. Dans la catégorie positif, mon cher Luc, et j'aurai quelque chose pour toi dans quelques instants, mon prix orange cette semaine va à Unitaire Bioélectronique, une entreprise de Bromont. L'entreprise a conçu un drone qui a permis de transporter des poumons. T'as vu ça, Luc,
incroyable,
passer,
hein?
C'est incroyable, certain. Donc, les poumons ont été transportés entre deux hôpitaux de Toronto. Puis pourquoi avoir choisi Toronto? Parce que c'est dans cette ville qu'a eu lieu la première transplantation pulmonaire. Ça s'est passé en 1983. Et il y a eu un grand succès. L'opération a été un grand succès. Et il y a eu une double transplantation 7 ans plus tard en 1990. Moi, j'ai trouvé ça absolument formidable. Imaginez, un drone qui part avec des poumons, puis ça s'en va d'un hôpital à l'autre, ça évite le trafic parce que c'est compliqué de transporter des organes, très très compliqué. Alors on veut, tu sais, on dit on n'arrête pas le progrès là, mais qui aurait un jour imaginé que des drones puissent servir à ce point la science et la médecine?
Formidable.
Formidable effectivement. Et là Luc, j'ai pensé à toi.
Ah.
Toi qui as vécu en France pendant quoi 5 ans? Ouais. Ben coup de tonnerre en France, je sais pas si tu as vu ça passer, les ventes de mozzarella ont dépassé celles du camembert.
Quoi?
C'est une Oui, monsieur, t'as bien compris. Une première historique qui ébranle la gastronomie française. C'est le magazine Le Point qui l'a rapporté. Et là, je partage avec vous deux données pour prendre la mesure du tonnage de fromage que consomment les Français. 29 230 tonnes de camembert ont été achetées par les Français entre le 1er janvier et le 11 septembre de cette année, alors que pour la même période, c'est 33 170 tonnes de mozzarella qui ont été vendus en France. C'est comme si les Québécois, finalement, on décidait de délaisser le pain tranché pour la baguette. Si j'avais à faire le parallèle entre les deux, là, mais c'est vrai quand même. C'est vrai, le pain tranché, ça fait partie de notre vie, de notre culture, de nos traditions, n'est-ce pas, de notre ADN, ouais. Même, j'ajouterais. Mais Luc, toi qui as vécu en France, ben la écoute, mozzarella, fromage italien qui dépasse la vente, les ventes de camembert.
Ça veut dire que la cuisine italienne est en vogue.
Ouais. Oui, ben exactement, c'est ça parce que ils disent que le camembert, tu le manges avec sur un plateau, avec des trucs sur un plateau, alors que la mozzarella, c'est pour faire la cuisine.
Ouais. Hey, tu sais que la France a changé en Simonac dans les. Quand j'étudiais là, je suis quand même pas si vieux, j'ai pas 108 ans là. J'avais été à la boxe, puis à la boxe arrivent les gars qui vendent des affaires. Les gars, ils vendaient des sandwichs rillettes ou des sandwichs au brie dans les estrades.
Ben oui, c'est fou. Hein? C'est, le jambon beurre à Paris, c'est quoi, c'est un classique.
Tu sais comment que ça a changé maintenant, le fast-food est arrivé, les cuisines. Voilà. Avant, c'était vraiment français, il y a à peine 30 ans. Là. Puis là, ça a complètement
changé. C'est fou, hein? Ça a complètement changé. Mais ça démontre ce que je dis. Et Paul, si tu permets, de penser pour notre chère Ginette Renault, qui a été hospitalisée hier pour un malaise. On lui souhaite que tout ça passe bien pour la suite des choses. Je souhaitais lui faire un petit clin d'œil ce matin. On l'aime, on l'adore. Puis là, le Canadien qui a commencé une saison sur les bottines.
Oui, ils sont revenus bredouille. C'est la nouvelle expression à la mode, bredouille. Ils sont partis, ils sont revenus bredouille. Bon week-end, on vous retrouve lundi.
C'est 23.